La nuit spéciale, le spectacle de fil en aiguille, se poursuit sur France Culture à l'occasion des 10 ans du Centre National du Costume de Scène, en compagnie de sa directrice Delphine Pinaza et de son président d'honneur Christian Lacroix. Depuis le début de la nuit, nous avons entendu les confessions de Cécile Sorel, un hommage à Christian Bérard et un documentaire sur les habilleuses de l'Odéon. Avec un numéro de musique à voir consacré à l'exposition Féerie d'opéra en 1998 à l'Opéra Garnier, la suite du programme nous permettra de déambuler au son des musiques de Rameau ou de Lully au milieu des décors et des costumes d'opéra du XVIIIe siècle. Nous écouterons un hommage à Rodolphe Nureyev au lendemain de sa disparition en 1993, puis nous nous perdrons dans les coulisses avec un documentaire sur les artisans du paraître. Et ensuite, nous irons au cinéma avec les plus belles robes du 7e art en compagnie de Rosine Delamare, qui fut une des grandes costumières du cinéma français. Delphine Pinaza, à Moulins, au CNCS, vous accueillez les costumes qui ont quitté la scène, mais pas tous les costumes. Quels sont les critères de sélection à l'entrée ?
Encore une question piège, une question qui nous laisse toute la nuit pour en parler. Peut-être que le premier critère, ça a été le temps, justement, et les usages, les coutumes, avant qu'on commence à prendre conscience, justement, de cette conservation indispensable ou patrimoniale, dans tous les cas, puisque les collections ne sont pas si anciennes dans ce domaine-là. Pour faire court, les collections du Centre national du costume de scène remontent à la deuxième moitié du 19e siècle. Les costumes précédemment, on soit disparu par usage, par trop d'usage, mais aussi par des incendies, puisque les théâtres ont souvent été l'objet, malheureusement, de destruction par incendie, où costumes et décors étaient détruits. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question de manière synthétique, les critères vont réunir différents éléments, à la fois la production, d'où vient ce costume, le théâtre, la compagnie, la mise en scène, la chorégraphie, bien sûr, le créateur de costume, celui qui l'a porté aussi, et puis l'objet par lui-même, est-ce qu'il est porteur de quelque chose de particulier, de particulièrement nouveau, de novateur, de nouveaux matériaux, d'un style révélateur pour d'autres courants, donc une sorte de critère. Donc ça implique de bien connaître ce qu'on nous propose, parce qu'aujourd'hui, le passé, je dirais qu'on a trié les caisses et il peut rester certains costumes dans certains théâtres, parce que le travail est encore en cours, mais pour les costumes qu'on pourrait nous proposer d'aujourd'hui, ce choix est difficile. Et difficile, ne peut pas se faire seul. De toute manière, on a bien sûr en tant que musée tout un tas de commissions qui valident nos choix, mais pourquoi on garde et qu'est-ce qu'on garde effectivement ?
Et que lui arrive-t-il à ce costume ? Est-il nettoyé, réparé ? Comment le conservez-vous ?
Alors, à partir du moment où il rentre dans les collections d'un musée, le costume devient un objet patrimonial, donc déjà ne sera plus jamais reporté sur scène. Et il suit un certain nombre de traitements. Le premier, le plus radical, ce sera son anoxie, sa désinfection, pour être sûr qu'il ne rentre pas dans des réserves infestées de petites bêtes, qui seraient nuisibles à la fois pour lui et surtout pour tous les autres. Donc ça, c'est un traitement qui est fait par un restaurateur. Il sera photographié, numéroté, décrit, on nous apporte un numéro d'inventaire. Tout ça maintenant reporté sur des bases de données qui permettent de consulter et de faire des recherches et voire de le consulter en ligne sur des sites internet ou des bases de données nationales. Et ce costume, il sera ensuite conservé dans des réserves conçues spécifiquement pour la conservation de ces costumes à l'abri de la lumière du jour, avec un climat contrôlé, permanent, et puis exposé en fonction du programme des expositions temporaires.
Et comment vieillissent les matériaux d'aujourd'hui, Delphine Pinaza ?
Oui, c'est paradoxal, mais les costumes peut-être les plus récents sont plus difficiles à conserver. Ils ont une espérance de vie qui est peut-être plus délicate que les costumes les plus anciens, du fait de l'apparition de ces nouveaux matériaux après la Seconde Guerre mondiale, et les matériaux synthétiques déjà dans un premier temps, et puis surtout maintenant, toutes les pratiques qu'ont pu avoir certains costumiers, notamment aussi dans les années 80, créateurs de costumes, pardon, dans les années 80, où cette idée aussi de costume opératique, comme disait Christian Lacroix, dans la mode, mais il y avait aussi une folie sur scène, et alors les résines, latex, la colle, tout était dans la surabondance, un costume très baroque, et donc très riche, avec tout un tas d'éléments énormément, ou des costumes peints. Il y a aussi des productions entières où les costumes sont peints et donc les toiles durcissent petit à petit. Donc ces matériaux nouveaux doivent faire l'objet d'études un peu spécifiques, mais c'est évident que certains, on ne pourra pas les sauver tels quels. Et on a le cas d'une très belle robe Lady Macbeth de Mandola Comédie Française, costume créé par Thierry Mugler, mais dont la jupe est entièrement en résine, et cette résine a tendance à se détériorer.
Les costumes, il s'agit de les conserver, mais aussi de les montrer au public. Déjà plus d'une vingtaine d'expositions depuis les 10 années d'existence du CNCS. Qu'est-ce qui détermine le choix du thème d'une exposition ?
Différents critères qui sont discutés au sein de l'équipe, avec le conseil d'administration, avec notre président d'honneur préféré. Et une certaine actualité aussi, en fonction peut-être des acquisitions que nous pouvons avoir, d'une actualité, dans le cas de Shakespeare, qui était aussi célébré en 2014. Ils sont nombreux. Après, il faut les réaliser, il faut trouver aussi des spécialistes pour les réaliser. Je dirais que c'est pas tellement la problématique, à mon avis, du sujet. On part de l'objet. C'est-à-dire la différence d'un livre, c'est qu'il faut qu'on parte de l'objet. Donc encore faut-il, si on a un sujet, d'être sûr d'avoir suffisamment de pièces à montrer et de raconter une histoire à travers ces objets que sont les costumes.
On peut peut-être rappeler quelques-unes des expositions. Christian Lacroix, quelles sont les expositions du CNCS qui vous ont le plus marqué ? À part les vôtres.
Non, je n'allais pas commencer du tout par les miennes. Bête de scène.
La première.
Baroquissimo. Les mille et une nuits. Il n'y en a pas une seule. Les fleurs. La comédie française. J'en ai raté certaines quand même. Il faut que je l'avoue. Habiller le pouvoir. J'aime les militaires, ça. Nous avons bien beaucoup tourné avec J'aime les militaires.
Oui, puisque les expositions voyagent.
Oui, partant en itinérance, selon les demandes, à la carte. C'est vrai que le CNCS, pour ça, bénéficie d'une communication assez importante en France, mais aussi à l'international. Et c'est souvent grâce à cette communication qu'on a des demandes de musées, de capitales, Singapour, Sydney, San Francisco, selon les thématiques, qui entendent parler du CNCS ou par rapport à une thématique très spécifique. Et c'est vrai que les toutes premières, c'était celle de Christian Lacroix qui a porté le CNCS à l'international pour être présenté dans d'autres pays. Et nous en sommes très heureux. Et ce n'est pas une démarche que nous activons nous-mêmes, c'est pour l'instant des réponses que nous faisons.
Et j'imagine que ce n'est pas sans une certaine anxiété que vous laissez partir ces costumes, puisque le costume, c'est un objet fragile que l'on ne peut pas exposer très longtemps, Delphine Pinaza.
Oui, alors on ne les laisse pas partir, on les accompagne. Hein, donc là, c'est le côté positif de ces expositions. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, puisque quand on part, on ne parle pas de quelques prêts, hein, ça on sait faire. Mais quand c'est une exposition dans son intégralité qui part en itinérance, il y a très souvent la scénographie qui est reprise, il y a bien sûr les mannequins qui repartent, il y a les costumes qu'il faut ressortir. Et on parle de 80 à 100 costumes. Donc c'est une très grosse organisation, beaucoup d'administration, une gestion de transport, de caisses qui sont faites sur mesure, de dédouanement, d'installation sur place, d'aller voir. Donc c'est une troisième opération que nous menons en parallèle des deux autres au quotidien. Donc c'est évidemment très, comme vous disiez, le costume est fragile. On ne peut pas partir de manière indéfinie et faire une tournée en Asie. Ce qu'on nous a proposé plusieurs fois d'aller dans 10 villes en Chine, bon, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec le costume.
Parce qu'on ne peut pas exposer un même costume indéfiniment.
Voilà. Si vous voulez, c'est plus vous allez l'exposer, plus il faudra qu'il reste ensuite en réserve. Donc, il y a des critères comme ça qui sont définis autour de 3 mois, 4 mois. Ça dépend un petit peu des pays, d'ailleurs, mais en tous les cas, selon sa durée d'exposition, il faudra qu'il reste plus longtemps en réserve. D'où cette programmation d'exposition temporaire au CNCS, qui n'a pas vraiment de collection permanente, hormis la collection Nourieff, mais qui a plutôt une permanence d'exposition temporaire qui se renouvelle 2 fois par an avec des sujets aussi différents et qui donc fait le bonheur du public.
Mais pour le fonds Nourieff, vous avez là aussi besoin de faire tourner les pièces exposées.
Le lieu, l'espace, la collection Nourieff est présentée de manière permanente. Elle a été conçue dans cet esprit. Mais les pièces les plus fragiles, c'est-à-dire les costumes portés par Nourieff, les costumes de ses chorégraphies portées par les danseurs, tout comme les photographies et les gravures, sont renouvelées régulièrement.
Par une porte dérobée, quelques-uns dont j'ai été ont parfois la chance d'accéder aux réserves du CNCS. Je dois dire qu'il est particulièrement émouvant de découvrir, enveloppé dans son linceul blanc, le costume que portait Sarah Bernard pour Ruy Blas. Y a-t-il un costume dans les collections auquel vous êtes le plus sensible, Christian Lacroix?
À Brûle-Pourpoint, ce sont des costumes assez humbles, des costumes qui avaient été retrouvés, des costumes des ballets russes, ces grandes robes de babouchka. Tu avais trouvé ça où?
Boris, en fait c'est une production de Boris Godunov, mais qui avait été rachetée en Russie justement. Enfin, c'était l'exposition, on les avait ressortis notamment à l'occasion de l'exposition dont le commissaire était Martine Kahn, justement les opéras russes à l'aube des ballets russes. Et ce sont des Diaghilev, avant de venir avec ses ballets, est venu déjà avec des opéras, et donc c'est des costumes qui viennent de Russie.
Ces robes-là qui sont peintes à la main m'avaient beaucoup marqué. Après, bon, bien entendu, effectivement, tout ce qui a appartenu à Sarah Bernard, à Gérard Philippe, c'est émouvant.
Et vous, Delphine Pinaza?
Bien sûr, on a tendance à orienter justement vers les artistes célèbres, parce que c'est ceux qui parlent, c'est ceux qu'on nous les réclame très souvent, un peu comme les costumiers, on nous demande toujours les couturiers qui ont dessiné. C'est un univers qui est tellement riche, c'est difficile. Moi, je trouve que chaque exposition a son lot justement d'informations, et ce n'est pas uniquement tel grand artiste. C'est sûr que on entend aussi nous avons des costumes de Maria Callas, et très souvent quand certains publics le voient, ils disent finalement, c'est ça. Effectivement, ce sont des costumes qui paraissent assez simples, qui sont pas forcément très ornés, très brodés, ils sont drapés antiques. Après, c'est tout l'imaginaire qu'on peut avoir autour de ce costume et de voir l'interprète. Donc ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que le costume, bien sûr, ne représentera jamais tout le spectacle dans son intégralité. Le CNCS n'a pas cette prétention. Mais par contre, je pense qu'il a un pouvoir de faire rêver et de faire imaginer l'artiste qui l'a porté, ou la mise en scène, ou le mouvement. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile qu'aussi de montrer un costume sur un mannequin inerte, alors qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est le prolongement du corps de l'artiste, de l'interprète.
Comme le disait très bien Edwige Feuillère. Hein.
Que j'ai habillé. et c'était très ému quand. Parce que ça ne faisait pas partie des documents qu'on avait choisis ensemble. C'était une jolie surprise que vous nous avez faite. Et ce qu'elle raconte là, c'était tellement vrai. Il fait une robe de mousseline dégradée dans des tons de chair d'orange et d'un peu agrume, comme ça. Et c'est vrai que c'était sa colonne vertébrale, que c'était ses jambes, que c'était ses bras et que c'était son port de tête qui faisait tout. Et Delphine a raison. Quand la première fois que j'ai entendu parler du centre, la première idée qui m'est venue, c'est mais comment est-ce qu'on va donner la vie à des choses mortes? C'est la même chose pour la couture, mais c'est encore plus vrai pour le costume de scène qui a cette vocation de mouvement, d'interprétation, et avec tous ces problèmes effectivement de tissus qui dépérissent. Et encore une fois, dans la couture, c'était pareil. Moi, j'ai fait une exposition aux arts décoratifs. J'avais très très envie de montrer du Paco Rabanne et du Courrèges. Et c'était les choses qui avaient le moins bien vieilli, alors que les robes du 18e étaient dans leur lumière la plus totale. Mais le vinyle, toutes ces choses-là, ça se colle quand ça a été mal conservé, bien sûr.
Selon vous, Christian Lacroix, qu'est-ce qu'un costume de scène réussi? Est-ce une question d'équilibre entre toutes les contraintes?
Il y a le costume que l'on fait pour le danseur. Les danseurs, ce sont peut-être les costumes les plus, pas les plus difficiles, mais on doit tenir compte, bien sûr, du mouvement, de l'entretien. Ce sont des costumes que l'on doit nettoyer presque tous les soirs. On peut aussi se réfréner sur certains ornements, parce qu'il ne faut pas justement que la taille, puisque le danseur doit prendre sa partenaire par la taille, soit plein de paillettes qui peuvent le couper. Mais le costume réussi, c'est celui qui va aider le comédien ou le chanteur à être le personnage. Moi, je dis toujours que je suis l'illustrateur de l'imaginaire de l'autre. J'écoute pendant des heures, et ça avait été merveilleux avec Anne Delbé quand on a commencé à travailler sur Phèdre. Elle a pratiquement imaginé le bouquin qu'elle a sorti sur Racine après, pendant 3 ans et demi. J'étais bouche bée à l'écouter. Et donc, apprendre Racine avec elle, sa vision de Racine, et puis après parler avec Mademoiselle Samy à l'époque, et les gens du français. Je ne sais pas si c'était réussi, mais ça a été une catastrophe à la première répétition en costume sur scène, parce que Anne souhaitait des traînes de 3, 4, 5, 6 mètres, et quand tous les personnages étaient ensemble, alors c'était comme une sorte de...
une marée.
À l'époque, on avait encore le droit d'avoir des chandeliers avec du vrai feu et des verres avec du vrai vin. Mais à la fin, ça a été
un Molière.
Je pense, ça a été un Molière, mais ça a été réussi. Je crois que c'est quand tout le monde retrouve le projet qui était d'abord une utopie dans sa tête, comme le Cyrano avec Denis Podalydès. Et quand on trouve cette alchimie, comme je l'ai avec Vincent Boussard depuis 1999, la première fois où il m'a invité, c'est William Christie qui me l'a présenté, on a commencé à travailler sur l'opéra baroque à la Monnaie beaucoup et en Allemagne ensuite. On reste un petit peu ensemble. Éric Ruff et Denis me font l'énorme. Moi, c'est un honneur et un bonheur qui me touche. Et là, je pense à l'enfant que j'ai été. Mais si on m'avait dit que des grands artistes comme ça de ton époque, quand tu seras grand, te feront confiance au point de dire des tellement jolies choses et d'être tellement fidèle. Alors c'est une. Là, je prépare à la fois un Péléas avec Eric, le Cantori avec Denis. Ce sont des. J'espère que les costumes seront réussis. Oui, mais c'est aussi respecter la personnalité de celui ou de celle qui va chanter, ce qui est difficile aussi dans la mesure où, surtout à l'opéra, les reprises ne se font pas toujours avec les mêmes. Moi, j'aurais envie de redessiner pour chaque cantatrice qui reprend le rôle, parce que la morphologie n'est absolument jamais la même. Mais je suis devenu, il m'est devenu pratiquement impossible de commencer à dessiner une seule maquette tant que je ne sais pas qui va chanter. Mélisande sera Mademoiselle Petitbon. C'est un costume qui ne peut que tenir compte de ce qu'elle est, parce qu'elle est différente. Après, si jamais c'est repris. Mais j'ai appris ça avec Vincent Boussard quand on a eu à faire un cosy pour La Monnaie de Bruxelles. Dans sa tête, quand il me le racontait, c'était des jeunes filles de 15 ans, 14 ans, en sous-vêtements, qui étaient là sur la plage, au 18e. Sont arrivées les cantatrices absolument divines, mais qui n'avaient ni envie d'être en sous-vêtements, qui n'avaient absolument pas 14 ans, et qui surtout ne se voyaient pas jouer comme ça. Donc on a recommencé, c'était très bien. Moi, je peux recommencer là. Je fais un musée pour le studio du français. Et la comédienne, quand elle a vu arriver la première toile, l'a mise beaucoup en question. Peut-être qu'elle n'avait pas assez discuté avec le metteur en scène, qu'on ne lui avait pas expliqué. Mais là, moi, je suis au CF, je suis comme un psy. Je suis, on recommence avec joie. On change la couleur, on change le tissu, on change la forme et on fait ensemble. Alors je crois que peut-être à la fin, le costume réussi, c'est celui qu'on a fait tous ensemble. Et j'ai la chance de travailler avec les metteurs en scène qui sont très impliqués dans les essayages. Je sais qu'il y a certains metteurs en scène qui ne s'en préoccupent absolument pas. Mais je pense que quand on est là, et ça c'est le plus grand bonheur de ma vie, quand il y a une actrice qu'on aime... un metteur en scène qu'on respecte et qu'on aime aussi, quelquefois le garçon qui va faire la lumière, parce qu'on dira jamais assez combien la lumière est importante et dans la vie que prend un costume, dans la chair qui lui est donnée sur scène. C'est ça le grand privilège, et le costume peut naître à ce moment-là. Quand en couture, on voit que le croquis commence à marcher.
La mode a évidemment servi la cause du spectacle. À quel moment la mode et le spectacle se sont-ils rencontrés ?
Très tôt.
Depuis toujours, oui. Depuis toujours, quasiment. Parce que la haute couture, déjà, on disait tout à l'heure, mais même à la cour, de toute manière, on était vraiment dans une similitude. Les interprètes et la cour se faisaient face et se regardaient tout autant et s'admiraient tout autant, rayonnaient.
Ils sont arrivés avec leurs costumes. Voilà. Les grandes, même ça, les comédiennes et les chanteuses arrivaient avec... alors, moi, j'aurais aimé voir, j'arrive pas à imaginer une production où Dan José arrive avec son costume, Escamillo avec son costume, Carmen avec son costume. On se fout de l'homogénéité. Puis il y avait cette expression qui me plaisait toujours beaucoup, habillé à la scène comme à la ville. Ça voulait dire que le couturier habillait telle ou telle actrice.
C'était plus dans le théâtre, effectivement. Il y avait cette idée de théâtre et l'exposition de la Comédie française l'expliquait, où quand le théâtre, quand le français jouait une pièce contemporaine, les actrices étaient autorisées à aller se faire habiller chez les couturiers. Bon, bien sûr, dès qu'on était dans une reconstitution quelconque, 5 Moyen-Âge, etc. Il y avait un costumier qui faisait des spectacles. Mais les liens ont toujours existé, existeront à mon avis toujours. Et tout à l'heure, quand vous parliez aussi de, donc on parlait de Bérard, c'est vrai que c'est peut-être que les créateurs de costumes à une certaine époque touchaient à tout. Aujourd'hui, la profession aussi s'est organisée. Il y a des formations qui existent, il y a des écoles, il y a des lycées professionnels, il y a l'ENSAT. Donc il y a une vraie formation structurée. Et donc on peut être costumier plutôt pour la scène vivante, plutôt pour le cinéma. C'est déjà pas tout à fait le même univers. C'est rare ceux qui passent un peu, qui travaillent en tous les cas pour les deux. Et la mode est encore autre chose. Donc, alors, on trouve quand même beaucoup de couturiers qui vont travailler pour la scène, peut-être moins de créateurs de costumes qui vont travailler pour la mode.
Peut-être que qu'on fait davantage appel aux couturiers ou aux stylistes ou aux designers de mode pour le musical. Il y a peu de couturiers aujourd'hui qui font du théâtre. Et il y en a qui ont un travail comme je n'ai jamais jamais compris pourquoi John Galliano n'avait jamais fait de costume de scène, par exemple. Carl en fait quelques-uns, mais pas énormément. Jean-Paul travaille plus pour le musical, oui. Jean-Paul Gaultier, que pour le théâtre. Je veux dire, il y a Gareth Pugh qui vient de faire une production d'Elio Gabal à Garnier, mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un nom de la couture ou de l'avant-garde contemporaine sur une scène.
Est-ce que la fabrication des costumes est touchée ou menacée par la délocalisation ?
Je pense pas, mais touché par des soucis économiques, des difficultés, ça c'est évident. Et depuis un certain nombre d'années, donc on l'a déjà dit à plusieurs reprises, beaucoup d'ateliers ont fermé, beaucoup d'artisans subsistent, mais voilà, beaucoup de savoir-faire ont disparu aussi certainement.
Le cinéma est plus touché parce que on a quand même la chance d'avoir avec des maisons comme l'Opéra Garnier-Bastille et la Comédie-Française des maisons de couture. Mais vraiment, quand je dis tout à l'heure que je n'avais aucun regret parce que habiller tel rôle, c'est comme habiller une cliente, je dois dire que pour moi, la passion, le plaisir, la ferveur du métier, elle est la même, peut-être même décuplée par le fait qu'une cliente de couture est quelqu'un à forte personnalité et très sympathique, mais c'est rare qu'elle sache chanter ou danser, alors que là, il y a ce plus et des ateliers qui ont un savoir-faire très comparable. D'ailleurs, c'était assez touchant tout à l'heure de rencontrer votre réalisatrice Virginie qui est passée par chez moi et pour la première collection en plus en 87 et qui la saison suivante était au théâtre. Il y a des vases communicants, et je trouve, pour le meilleur quelque part. En même temps, on a été, ma génération de couturiers, avec Thierry en particulier, Mugler, à faire venir les artisans du théâtre, des maisons comme les ADC, les ateliers du costume, ou on n'est pas 36, hein, y a Caraco, auxquels la mode fait appel, parce qu'une collection, quelquefois, ne peut pas être absorbée par les ateliers, aussi grande que soit la maison. Et puis, il y a des pièces particulières qui ont besoin d'une main plus théâtrale. Et aujourd'hui, il y a au Moulin Rouge des gens formidables. Mine Barral, qui a eu un des ateliers les plus formidables, qui a habillé aussi bien Barbara que Joséphine Baker, et qui est au Moulin Rouge, mais qui participe aussi à des productions à l'extérieur, comme le spectacle qui vient de finir, formidable pour le studio de la Comédie Française, qui s'appelait Interlope. C'était des comédiens français habillés par le Moulin Rouge. C'est bien.
Vous parlez du Moulin Rouge. Passons au musical.
Et quel est le meilleur moyen pour vous de prendre le public? Pour avoir son public en scène?
C'est moi.
Mais qu'à paraître.
J'arrive. Puis je leur raconte mes histoires. Puis je vois que ça porte. Et ben je suis contente.
Et qu'est-ce qui les frappait le plus? Est-ce que c'est par exemple le panache et ces espèces de plumes? La façon de danser, la façon de chanter ou le cœur que vous donniez à une chanson?
Non, les plumes, ça l'abrutit le public. Et bien ils regardent, ils disent oh, tiens, c'est bien ou c'est moche ou c'est beau ou c'est pas beau. Et puis c'est tout. Mais après, il faut le prendre.
Alors?
Eh bien, je le prends.
En chantant?
Oh, j'en sais rien. Avec le sourire.
Et je me souviens brusquement d'avoir eu de vous une photo extrêmement curieuse. Ah. C'était une gommeuse. Elle avait du ruban dans les cheveux.
Oh non, 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 pas de ruban. Je mets de la plume, moi.
Maintenant, c'est de la plume. Oui. Mais vous avez eu des rubans. Et c'était aussi joli.
Les rubans, c'est trop bon marché. J'aime Colcher.
Nous venons d'entendre Mistinguette au micro du très dynamique Maurice Féaudière en 1953 sur Paris Inter. Se tient jusqu'au 5 mars 2017 au CNCS l'exposition Déshabillez-moi, costume de la pop et de la chanson. Que peut-on découvrir dans cette exposition, Delphine Pinaza? Les plumes de Mistinguette, mais encore.
Effectivement, l'exposition commence avec dans le temps. Elle commence avec Mistinguette pour se terminer par la scène contemporaine et notamment par des costumes de Mathieu Chédid. L'idée de cette exposition, c'est d'ouvrir à une autre forme de spectacle de vivant. Et justement, forme qui a beaucoup évolué peut-être au cours du XXe siècle, puisque les premières années, on est dans le music hall qui fait suite au café-concert. Donc on est encore dans cette idée de spectacle, où que ce soit Moulin Rouge, Folies Bergères, il y a un metteur en scène, enfin directeur, il y a un décorateur, il y a des costumiers, il y a des ateliers, donc c'est tout un ensemble. Il y a des boys et des girls, et puis il y a la vedette, la meneuse de revue qui se fait habiller dans un souci global. Et petit à petit, le chanteur, l'artiste s'affranchit justement de ces grands spectacles, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et apparaît aussi dans d'autres lieux, des cabarets, des espaces plus intimes. Et là, il est seul ou avec ses musiciens, et donc il apparaît sous un autre costume, et donc sans les plumes et sans le décorum justement d'avant-guerre. Donc petit à petit, tout ça évolue pour qu'aujourd'hui, l'artiste, évidemment, chanteur, pop, se choisit son costume, soit seul, soit aidé d'un professionnel, d'amis, d'un couturier, d'une maison de couture qui l'interpelle, qui correspond peut-être à son message, à ses idées, à sa forme d'expression.
Nous venons d'entendre Mistinguette. Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez aimé habiller à la scène et à la ville, Christian Lacroix?
Ah, sûrement, le côté gouailleur comme ça. Et d'ailleurs, à la ville, puisque en ce moment se tient aussi au musée Galliera une exposition sur les collections. Ça s'appelle Anatomie d'une collection. Ouais. Et il y a
une robe de
Mistinguette qui était époustouflante.
Qui d'autre auriez-vous aimé habiller?
Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question-là, parce que. Alors, de manière un peu prétentieuse, je répondais toujours que il fallait qu'on vienne à moi. Que... Mais c'est vrai que non, je sais pas de tout le monde. La calasse, bien sûr, la calasse. Mais ça, c'est. Puis des fois, peu importe le nom, il y a des. J'habillais Mireille, par exemple. Mmh. Des rencontres avec des gens comme ça qui appartiennent à votre panthéon d'enfants, parce que. Mireille Mathieu aussi, j'ai Mireille Mathieu et c'était un grand plaisir. Quand il se passe quelque chose, quand il y a une vraie rencontre, mais si c'est pour mettre une griffe sur le dos d'une chanteuse ou mettre le nom d'une chanteuse sur le CV de la maison, c'est pas très intéressant. J'ai bien Madonna, mais un peu à distance. Il n'y a pas de rêve particulier et surtout pas de fantasme sur le people.
Dans cette exposition, plumes, paillettes, or, argent, mais il y a eu aussi des artistes qui ont fait leur carrière avec des tenues plus sobres, voire austères. Je vous propose d'écouter celle qui fut la première dame en noir.
La première robe que j'ai eue à la pépinière, elle était mauve et argent. Et puis la seconde, elle était rouge et or. Alors celle-là, c'est celle-là où Sacha m'a eu avec celle-là. Et puis alors je chantais l'après-midi, c'est-à-dire que l'après-midi, il y avait matinée tous les jours au petit casino. Alors on chantait en robe de ville. Et j'avais, comme robe de ville, j'avais une robe de velours bleu marine avec une grande ceinture faisant un petit peu des ceintures suissesses, on appelait ça, vous savez, un petit comme ça, qui prenait ça. Et un col de Bruges, puis un petit col, des petites choses de Bruges ici. Tout le monde me disait que ma robe d'après-midi était plus jolie que la robe mauve et argent. Je trouvais que ça faisait pas scène, moi, tu comprends, j'étais pas encore habituée. Et alors Paul, quand j'ai eu mon contrat pour l'Alhambra, j'ai dit, je vais pas mettre la robe bleue. Ils me disent, ils sont tous à critiquer le mauvais, l'argent. Je vais en faire une belle rouge et or. Alors rouge, alors avec des grandes broderies, mais alors à la main. Hein, ça m'avait coûté 250 francs à l'époque, c'était cher. Puis alors une broderie comme ça en bas, c'est magnifique. Rouge et or.
Puis j'arrive sur la scène, puis il y avait Sacha qui était là. Totalement, je dis, il me dit, mais diable, mademoiselle, pourquoi vous habillez-vous en dompteuse de puce? Alors, puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il avait raison. Et alors, j'ai eu de l'idée de ça, de ma robe bleue qui me plaisait beaucoup plus. Je l'ai fait faire noir, parce que le bleu faisait un peu noir sale en scène. Alors, j'ai fait faire carrément un noir. Et puis, alors, au lieu d'avoir le petit col rond comme j'avais dans ma robe, j'avais fait faire comme un petit fichu Marie-Antoinette, comme ça. J'ai la petite affiche comme ça dans chez moi. Et puis là, ici, la même chose. Puis alors, pendant la guerre de 14, j'ai chanté jusqu'à la guerre de 14 avec ça. Je chantais beaucoup au concert Sanga. C'était la réunion là, de tous les aviateurs. J'y connais toute l'aviation venait là parce qu'il y avait une grande salle en dessous. Ils pouvaient les faire danser la nuit. Enfin, c'était l'endroit où tous les aviateurs se réunissaient quand ils avaient des permissions pendant la guerre de 14. Oui, j'étais chez Sanga. Puis un jour, j'arrive. Puis il y avait une méchanceté ou une blague. On m'avait arraché toute ma dentelle partout. Alors j'ai enlevé les petits bouts de fil blanc, je suis rentrée tout en noir et tout le monde m'a dit « Oh, c'est extraordinaire en noir !» J'ai coupé les manches et il est resté comme ça tout le temps après. C'est comme ça que ma robe noire, toute noire, est arrivée.
Nous venons d'entendre Damia lors d'un entretien avec Émile Dana, diffusé sur France Culture en 1967. Delphine Pinaza, on peut d'ailleurs voir la robe noire de Damia au CNCS à Moulins, dans une vitrine entièrement dédiée au noir.
Oui, absolument. Justement, Damia, mais aussi Edith Piaf, Barbara, Juliette Gréco, les dames en noir. Certainement pour une sorte de réaction aussi, justement, au costume. Edith Piaf le disait, réaction au costume d'avant-guerre et de ce décor trop opulent et trop visible, et justement de n'apparaître qu'à travers son interprétation et non pas à travers le costume. Pour un costume réussi, on peut évidemment citer Roland Barthes qui dit que le costume réussi est celui qu'on voit mais qu'on ne regarde pas. Et donc, peut-être qu'on peut reprendre aussi justement cette citation pour ces robes en noir. Sur Damien, on trouve aussi des témoignages, entre autres Paul Collin, qui se réclame être un des créateurs, je ne sais pas, de cette robe noire, et dont il dit que c'est en opposition avec la blancheur de ses bras qu'il a créé cette robe. Donc aussi, voilà, bien sûr que le costume s'harmonise au corps et au corps de l'interprète, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Christian Lacroix, avec la distribution des gens, on crée un costume pour une personne. Et c'est certainement un élément justement de réussite. Donc dans cette vitrine noire, on trouve à la fois ces dames en noir, mais aussi le noir du rock et d'une certaine violence, de la rébellion, à travers d'autres artistes, et notamment Alain Bachung, Renaud et Johnny Hallyday, évidemment.
Et puis il y a la vitrine or.
La vitrine des légendes dorées, puisque cette exposition propose plutôt un parcours thématique et non pas chronologique, inspiré depuis le gold suit de Elvis Presley, où là encore, de toute manière, le costume dans ses premières missions, c'est de rendre visible l'artiste ou l'interprète. La reine d'Angleterre ne va pas contredire justement cette gamme de couleurs très forte qui est faite pour être visible. Donc le doré renvoie la lumière, comme les habits et un brocart et renvoyer la lumière aussi à la cour de Louis XIV. Donc cette couleur dorée était à la fois aussi une incarnation, une couleur royale, mythologique, égyptienne, que s'accapare justement les artistes un peu dans cette idée de vivre et de refléter leur art sur scène.
Ce qui est aussi assez symptomatique aujourd'hui, c'est que les artistes vont chercher la mode, alors qu'avant, jusqu'aux années 60, ils la créaient aussi. Mmh. On a moins ce phénomène-là. La chemise à fleurs d'Antoine, par exemple. Sans Antoine, Liberty...
Il pourrait pas être quitté.
Et c'est pas parce que la chemise à fleurs était à la mode qu'il était allé la chercher. Il s'est inventé ça. C'est lui qui l'a propagé. C'est comme le Vichy de Bardot, oui. Des choses comme ça. On n'a pas beaucoup d'exemples aujourd'hui.
L'exposition ouvre vraiment sur cette idée, puisque d'objets cultes, de vitrines consacrées à des objets, on va dire, un peu du quotidien, mais qui, dans les mains et dans la carrière d'un artiste, est devenu culte. Le canotier de Maurice Chevalier, voilà. Qui effectivement est un objet qui existait par ailleurs bien avant Maurice Chevalier et qui, porté sur scène, est devenu son emblème, est devenu son symbole, et tant et si bien qu'il y a certains artistes qui le représentaient uniquement avec le canotier. On ne voyait même plus le visage de Maurice Chevalier. On présente justement une chemise à fleurs, le bandana de Renaud, d'autres éléments qui sont symptomatiques d'artistes, plus que, enfin, autant que leurs prestations, évidemment.
Merci Delphine Pinaza et Christian Lacroix.
Merci à vous.
Nous nous retrouverons dans un peu plus de 3 heures, juste avant la fin de cette nuit spéciale, le spectacle de Fil en aiguille. Et d'ici là, nous aurons écouté Musique à voir, l'exposition de décors d'opéra du XVIIIe siècle, Féerie d'opéra, par Sophie Barouillet en 1998. Hommage à Rudolf Nureyev par François Delétras pour Le temps de la danse en 1993. Puis Grand angle, dans les coulisses du spectacle Les artisans du paraître par Laurence Crémière en 1997. Et pour finir, Les plus belles robes du cinéma, un numéro de projection privée de Michel Simon en 2001. La nuit spéciale, le spectacle De fil en aiguille se poursuit sur France Culture. En votre compagnie, Delphine Pinaza et Christian Lacroix.
Déshabillez-moi.